Pourquoi RFI dit ça ?
Bonjour, lundi, cela fera 3 ans que la guerre en Ukraine a commencé. Comment travaillent nos journalistes sur place ? Julien Chavannes nous dira tout. En visite au Maroc, la ministre française Rachida Dati a parlé de province du Sud à propos du Sahara occidental, une expression que RFI ne reprend pas à son compte. On vous explique pourquoi. Mais d'abord, tournons nos regards vers le Proche-Orient. Bonjour, Abla Jounaïdi.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service international de RFI. Avec vous, on va revenir sur la série d'échanges entre Israël et le Hamas. Ce lundi, on a pu entendre sur RFI le témoignage d'un prisonnier gazaoui libéré par Israël le week-end dernier. Il a accepté de témoigner au micro de notre correspondant à Jérusalem, Sami Bourhelifa.
Ils m'ont mis de côté et m'ont déshabillé. J'ai été arrêté, battu, insulté, humilié, trempé par la pluie. Il faisait hyper froid. Et durant les 4 mois qui ont suivi, j'ai eu les mains ligotées. Durant les 2 premiers mois, j'avais aussi les yeux bandés. Et tout ce temps-là, il fallait rester assis, soit à genoux, soit sur les fesses, de 5h du matin à 23h tous les jours. C'est une de leurs méthodes de torture.
Alors les mots sont très forts, hein, Abla. On n'entend pas souvent d'ailleurs dans les médias les témoignages des anciens prisonniers palestiniens venus de Gaza. Il y a une raison ?
Alors là, en l'occurrence, le témoignage fort, effectivement, recueilli par Sami Bourhelifa, c'est un témoignage qu'on entend rarement parce qu'il provient de quelqu'un venant de Gaza. Il se trouve que toutes les semaines où il y a eu des libérations de détenus palestiniens, ils se réunissaient sur une place, notamment à Ramallah, où on pouvait effectivement recueillir leurs paroles de façon... Il suffisait de se rendre à Ramallah. C'est pas toujours facile de se rendre à Ramallah, mais il suffisait de s'y rendre pour leur donner la parole. Mais quelqu'un qui vient de Gaza, donc qui a été détenu depuis plus d'un an, etc., c'est plus rare que quelqu'un qui est issu de Cisjordanie et qu'on peut effectivement aller voir chez lui en Cisjordanie.
Certains auditeurs disent qu'ils ont l'impression d'entendre davantage les anciens otages israéliens et peut-être encore plus leurs amis ou leurs familles. C'est un parti pris ?
Alors, je ne dirais pas que c'est un parti pris. Je dirais qu'effectivement, ils sont plus disponibles. C'est vrai que chaque semaine, il y a des rassemblements en faveur des otages israéliens, pour se souvenir d'eux, pour entretenir tout simplement leur mémoire, enfin simplement être présent pour eux, rappeler leur sort au gouvernement. Longtemps, les proches des familles d'otages considéraient que le gouvernement oubliait la cause des otages, alors que historiquement, c'est une cause importante et c'est un accord tacite que le gouvernement israélien a avec la population, c'est qu'on ira chercher tous les otages où qu'ils soient et quel que soit le prix. Là, il se donnait la mission de rappeler à chaque fois au gouvernement, nous avons toujours des otages détenus à Gaza. Donc, on les voit régulièrement dans les médias. Et là où je vous rejoindrais, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'otages israéliens qui ont une double nationalité. Par exemple, ils sont franco-israéliens, américano-israéliens. Et donc, il y a un écho beaucoup plus fort dans les médias occidentaux sur le sort de ces otages-là en particulier. Ce qu'il faut souligner également, c'est que c'est pas si facile d'avoir des familles d'otages au micro, en fait. D'une part, ils ont peur, parfois. Ils ont peur qu'avec leurs paroles, ils compromettent la suite des libérations pour les autres familles, ou pour la suite, même parfois, ils ont plusieurs membres de leur famille qui ont été enlevés. Donc, ils ont un peu peur d'apparaître dans les médias et de compromettre la suite des libérations. Et puis, ils ont peur aussi d'avoir une parole critique qui puisse être... souvent, ils ne sont pas à l'aise, simplement, aussi, parfois, avec les médias. Ils ont peur que leurs paroles soient interprétées et mettent en cause l'unité nationale aussi. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui leur appartiennent et qui font que ce n'est pas si évident pour eux de parler.
Mais tout de même, Abla, qu'il s'agisse des Palestiniens relâchés par Israël ou des Israéliens libérés par le Hamas, est-ce qu'on peut vraiment prendre pour argent comptant leurs différents témoignages ? Est-ce qu'on ne peut pas se demander s'ils ne sont pas instrumentalisés pour servir la propagande de l'un ou l'autre camp ?
Oui, comme je viens de dire, en fin de compte, il y a cette crainte d'avoir sa parole instrumentalisée. Parfois, on interdit aux gens de parler aussi, et là, il est important de revenir sur le cas des détenus palestiniens. Moi, j'ai assisté à une libération donc en Cisjordanie, à Ramallah, où on avait interdit aux familles de s'exprimer dans les médias. Il y a même, de la part de l'armée israélienne, des menaces formulées telles quelles, et même une intervention dans leur maison, la veille de la libération, même cassant l'intérieur d'une maison d'un proche, d'un détenu palestinien, pour leur passer un message Vous êtes prié de ne pas faire la fête parce que voilà, ça va apparaître dans les médias et c'est pas l'image qu'Israël veut montrer au monde. Et vous êtes prié de garder le silence, de ne pas trop vous exprimer dans les médias. De fait, il y a une volonté de contrôle de la parole, c'est certain.
Abla Vounaïdi, merci beaucoup.
Merci à vous.
La ministre française de la Culture était en visite au Maroc ces derniers jours. Peu après son arrivée à La Hayoune, la principale ville du Sahara occidental, Rachida Dati a salué, je cite, « la marocanité des provinces du Sud », en reprenant l'expression en usage au Maroc pour parler de cette zone contestée par le Front Polisario. Alors dans les journaux et dans les reportages diffusés sur RFI, nous avons parlé de la visite de Rachida Dati au Sahara occidental.
J'ai été très impressionnée. Comme vous savez, je connais le Maroc et l'évolution de ce développement dans les provinces du Sud sont assez impressionnants.
Le ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd.
C'est la première fois qu'un responsable du gouvernement français visite les provinces du Sud du Royaume. C'est une confirmation du soutien de la France, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, à la marocanité du Sahara.
Au mois d'octobre, lors de sa visite d'État dans le Royaume, le président français Emmanuel Macron avait réaffirmé le changement de position de son pays dans le dossier du Sahara, permettant la relance du partenariat entre le Maroc et la France.
Alors, province du Sud ou Sahara occidental, pourquoi est-ce que RFI a choisi une terminologie plutôt qu'une autre? Pour en parler, Laurent Corot est avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour Jean-François.
Vous êtes rédacteur en chef du service Afrique de RFI. Pourquoi RFI parle-t-elle donc de Sahara occidental?
Alors, nous en restons à RFI, comme la plupart des médias d'ailleurs, nous ne sommes pas seuls, à l'expression Sahara occidental, parce qu'en fait, le statut même de cette région continue à faire l'objet d'un bras de fer diplomatique entre, pour faire simple, d'un côté, le Front Polisario et l'Algérie, de l'autre, le pouvoir marocain. C'est une question qui reste encore maintenant très polémique à l'international, même plusieurs décennies après que cette affaire ait éclaté. L'Algérie, par exemple, a vigoureusement protesté contre la visite de Rachida Dati, qui, selon elle, je cite, « traduit un mépris insigne de la légalité internationale de la part d'un membre permanent du Conseil de sécurité ». L'ONU, d'ailleurs, puisqu'on en parle, l'ONU continue, elle aussi, à utiliser l'expression de « Sahara occidental », comme elle l'a encore fait en octobre 2024 dans la résolution 2756 du Conseil de sécurité. Dans cette résolution, d'ailleurs, et ça montre bien finalement à quel point ce terrain est sensible et polémique, dans cette résolution, le Conseil de sécurité réaffirme son souhait d'une solution politique juste, durable, mutuellement acceptable et basée sur le compromis, une solution qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.
Alors on le comprend, le dossier reste ouvert, pourtant la France, elle a pris position dans cette affaire.
Alors oui, dans ce long bras de fer diplomatique, la France a très longtemps conservé une forme de neutralité. Et puis, le 30 juillet 2024, le 30 juillet dernier, Emmanuel Macron a reconnu dans une lettre qu'il a envoyée à Mohamed VI la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et c'est une position qu'il a réaffirmée depuis devant le Parlement marocain quand il est venu sur place en visite d'État en octobre. Et en fait, si vous voulez, c'est dans cette séquence que s'inscrit la visite de Rachida Dati au Maroc, dans ce changement de positionnement de la diplomatie française. La scénographie même de cette visite, ce parcours qui est passé par Tarfaya, une ville marocaine, et qui, dans un même mouvement, s'est ensuite prolongé à La Hayoune et Darla au Sahara occidental. Cette scénographie est très politique, finalement. Elle dit quelque chose. Le choix même de Rachida Dati dit aussi quelque chose, puisque la ministre réclamait depuis longtemps la reconnaissance de cette souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Sur place, elle a annoncé la mise en place d'une alliance française, d'un établissement de formation au Sahara occidental. Elle a fait référence aux provinces du Sud, donc le terme qui est utilisé côté marocain pour désigner ces territoires. Donc tout cela montre bien le caractère très, très politique et très symbolique de cette visite de Rachida Dati, qui permet en fait de confirmer, d'appuyer la position française.
Et pourquoi RFI n'adopte-t-elle pas elle aussi cette expression de province du Sud, Laurent ?
Alors on en revient à ce qui fait l'ADN de notre radio, le fait de ne pas être une radio d'État, mais une radio de service public. Nous ne sommes pas, on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans cette émission, nous ne sommes pas une caisse de résonance de la diplomatie française. Nous sommes là pour donner au public des clés de compréhension, des stratégies des uns et des autres. Et les autorités françaises, eh bien, elles sont un acteur comme les autres dans ce dossier. Nous ne sommes alignés ni sur Paris, ni sur Rabat, ni sur Alger, ni sur quelque autre acteur que ce soit dans cette situation. Le dossier restant ouvert sur le plan international, il nous semble vraiment important de conserver la terminologie de Sahara occidental qui permet vraiment à la rédaction de rester équidistant des uns et des autres.
Laurent Corot, merci beaucoup. Lundi prochain, 24 février, cela fera 3 ans jour pour jour que la Russie a envahi l'Ukraine, un conflit que RFI suit évidemment de près, aussi bien du point de vue diplomatique que sur le terrain, comme en ce moment avec Anastasia Becchio et Boris Vichit. Et c'est Julien Chavanne qui est avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-François, bonjour à tous.
Vous vous êtes rendu 2 fois en Ukraine depuis le début du conflit, la dernière fois en janvier dernier avec Boris Vichit également. D'une mission à l'autre, qu'est-ce qui a changé dans votre façon de raconter la guerre ?
C'est surtout l'état d'esprit des Ukrainiens qui a changé. La première fois, moi, je suis resté à Kiev et dans les environs de la capitale. C'était 1 an et demi après le début de la guerre. La vie apparaissait à peu près normale. Les gens sortaient. Quand il y avait des alertes à la bombe, les gens ne se rendaient plus dans les abris. En tout cas, la plupart continuaient leurs activités. Ils restaient dehors, dans les terrasses. C'était l'été. Il y avait un air un peu surréaliste de vie normale, mais avec un fond d'anxiété parce que les combats continuaient. Il y avait toujours des alertes au bombardement, des alertes aériennes. Donc, ce qui a changé, c'est vraiment l'état d'esprit des Ukrainiens. Là, c'était il y a 1 an et demi la première fois, il y avait des bonnes nouvelles sur le front. C'est plus le cas. 3 ans après, l'armée russe progresse peu en termes de superficie, mais il continue d'avancer. Et puis surtout, aujourd'hui, les Ukrainiens n'ont plus leur destin entre leurs mains. Et puis 3 ans, c'est long. Et tous ont perdu quelqu'un, un membre de leur famille, un ami, un proche. Et ça, ils le ressentent tous dans leur chair.
Est-ce que les Ukrainiens parlent facilement aux journalistes comme vous ?
Un micro-trottoir à Kiev ou ailleurs dans le pays, un micro-trottoir, c'est dans notre jargon, quand on va dans la rue pour interroger les gens, parler un peu de leur état d'esprit, c'est très facile. Ils veulent parler parce que c'est la façon de communiquer, c'est une façon de résister. Et quand ils s'adressent à RFI ou à d'autres médias français ou européens, ils s'adressent aussi aux Occidentaux, donc ils cherchent à faire passer des messages. Donc non, c'est très facile de parler aux Ukrainiens. Ils ont besoin de l'aide extérieure, donc ils communiquent évidemment.
Alors à propos de jargon justement, il y a un mot qu'on entend souvent quand on parle de conflit et de zone de guerre, c'est le mot « embedded ». C'est un mot anglais, ça signifie être intégré à un groupe de soldats. Comment dans ce genre de circonstances prend-on de la distance quand on est journaliste afin de ne pas se faire instrumentaliser ?
On a le contexte. Moi, ça m'est arrivé donc, lors de la dernière mission. On a été embedded, embarqué avec une unité près du front, dans un hôpital de campagne. Alors, on a interdiction de révéler où c'est. On est assez encadré. Il y a un officier militaire chargé de la presse qui nous accompagne, qui assiste à toutes les interviews. Dès qu'on arrive sur place, il nous dit « Bon, ça, vous pouvez pas. Le reste, vous pouvez. » Il contrôle évidemment ce que disent les soldats au micro. Il y a des données stratégiques. Et puis, comme en France et comme ailleurs, les militaires n'ont pas forcément le droit de parler politique, en tout cas en on, c'est-à-dire officiellement. Ils le font en off, il suffit de croiser des soldats aux stations-service, etc. Et là, ils parlent librement. Comment ne pas se faire instrumentaliser ? On a le contexte. Quand moi, je vais dans cet hôpital de campagne, je connais la situation, on la connaît, de l'armée ukrainienne qui manque de moyens, qui est mal encadré, il y a plein de surplus militaires, vous savez, ces boutiques où on vend du matériel pour les soldats qui pullulent dans les villes à l'est parce que les soldats ont besoin de s'acheter leur matériel parce qu'ils n'en ont pas assez. Donc on a tout ça. Donc oui, là, on nous emmène dans un hôpital de campagne qui est impeccable. Les gens sont charmants, parlent librement, etc. Mais on sait que à côté de ça, c'est pas facile. Et d'ailleurs, dans leur témoignage, les militaires cachaient pas que c'était difficile sur le terrain et que c'était une véritable opération militaire à haut risque quand il fallait aller récupérer un soldat blessé au front et le ramener jusqu'à ce point de stabilisation.
Inversement, Julien, est-ce qu'un journaliste se sent un peu redevable envers les soldats qui vous accueillent et même parfois qui vous protègent quand ça devient un petit peu chaud ?
Oui, on le ressent. Après, quand on est dans ces situations-là, il y a, enfin, pour ma part, il y a une espèce de filtre. Voilà, je ne suis pas là en tant que que citoyen français, je suis là en tant que journaliste, donc j'ai un filtre. Donc oui, je suis touché par ce que j'entends, par ce que je vois, et j'essaie de le rapporter parce que ça fait partie de la réalité. Redevable, non, jamais. Non, je suis redevable en tant que journaliste de leur envoyer mon travail et de leur dire, ben voilà ce que j'ai fait, vous pouvez en penser ce que vous voulez, si j'ai fait une erreur, dites-le moi, etc. C'est de l'honnêteté professionnelle. Redevable, non, chacun fait son métier. Après, humainement, oui, quand on peut être protégé ou accompagné, il y a des choses qui se passent avec les gens et c'est aussi pour ça qu'on fait ce travail. Redevable, non, en tout cas, je maquillerai jamais la réalité parce que je m'entends bien avec certaines personnes, etc. Voilà, moi je dis toujours, notre métier, on ne le fait pas objectivement à 100%, on le fait le plus honnêtement possible.
Julien Chavannes sur RFI, vous nous donnez rendez-vous, Julien, pour votre grand reportage consacré à l'Ukraine lundi prochain, 24 février. Grand reportage sur RFI, 3 ans de guerre, les Ukrainiens résignés. Pourquoi RFI dit ça comme ça? Frédéric Jeuneau, bonjour.
Bonjour Jean-François, bonjour à tous.
Est-ce que RFI va continuer à utiliser le nom Golfe du Mexique pour cette mer qui borde le sud-est des États-Unis d'Amérique et que Donald Trump appelle lui Golfe d'Amérique?
Certainement, Jean-François. À RFI, on ne modifie pas les noms propres sans une bonne raison. Et j'ajouterais même sans un bon délai de réflexion. Le président états-unien a signé fin janvier un décret qui change le nom de ce lieu. Vous l'avez dit, il veut que le Golfe du Mexique devienne le Golfe d'Amérique. Sa voisine, la présidente mexicaine, a eu beau préciser qu'on ne modifiait pas le nom d'une mer internationale au seul bon vouloir d'un des pays voisins. Plusieurs géants du numérique n'ont pas tardé à s'exécuter. Dans les jours suivants, Google Maps indiquait à ses utilisateurs des États-Unis Golfe d'Amérique et à ceux qui avaient une adresse IP au Mexique, Golfe du Mexique. Nous avons fait l'essai, près de Paris donc. Google Plan comme Apple Plan indiquent bien les deux noms, Golfe du Mexique et, entre parenthèses, Golfe d'Amérique.
Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne change pas les noms de mer ou de terre comme ça.
En principe, non. Et c'est pour cela que le Mexique menace Google et Apple de poursuites judiciaires s'ils maintiennent les noms actuels. Mais cela fait aussi partie de la façon dont Donald Trump entend présenter sa réalité des choses. Et pour cela, il n'a pas peur d'un nouveau bras de fer avec la presse. Ainsi, les journalistes de l'agence AP, Associated Press, ont été interdits d'accès au bureau ovale de la Maison-Blanche et à l'avion présidentiel parce que AP, ou AP si on le prononce à l'anglaise, continue d'employer le terme « Golfe du Mexique ». L'agence a reçu le soutien des autres organes de presse et sa vice-présidente a dénoncé ce qui est selon elle une violation du premier amendement de la Constitution, celui sur la liberté d'expression et la liberté de la presse.
Comment réagissent les autres médias, Frédéric?
Ceux qui ne soutiennent pas clairement le président Trump ne cachent pas leur inquiétude. L'agence française de presse, AFP, qui est l'équivalent en français d'AP, est amenée très régulièrement à reprendre des citations dans leur intégralité. C'est le propre du travail des agences. Elle réfléchit d'ores et déjà aux formulations qu'elle va privilégier pour préciser le contexte lorsqu'elle reproduira les propos de quelqu'un parlant de Golfe d'Amérique. À RFI, jusqu'à présent, les seules fois où nous avons utilisé le terme « Golfe d'Amérique », c'était pour rendre compte de la réaction de la présidente mexicaine. Si nous sommes amenés à décrire géographiquement la région, eh bien nous continuerons à dire « Golfe du Mexique ». Et bien sûr, c'est plus facile pour nous qui sommes un média français.
Forcément. Et si on élargit un peu la focale, Frédéric, ce n'est pas le premier golfe à avoir plusieurs noms.
Non, et il en est un que l'on qualifie très souvent de « golfe ». Tout court, souvenez-vous, la guerre du Golfe, ou plutôt les guerres du Golfe. Nous parlons ici du Golfe Persique, celui qui se trouve entre l'Iran et la péninsule arabique. Depuis des siècles, on l'appelait Golfe d'Iran, puis Golfe Persique à partir du XXe siècle. Et voilà que dans les années 70, l'Arabie saoudite se met à parler de Golfe arabique, un golfe persique sur une rive, golfe arabique sur l'autre. Certains tentent alors une formule diplomatique, un bel exemple de compromis pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, le golfe arabo-persique ou golfe tout court, ce qui ne satisfait pas l'Iran qui estime que l'appellation historique s'impose. À l'heure actuelle, on considère parfois que ceux qui parlent de golfe arabique ou arabo-persique ont une diplomatie plus tournée vers l'Arabie saoudite que vers l'Iran. Mais dans l'ensemble, toutes les versions existent, que ce soit dans les livres de géographie des lycéens, les discours des ministres ou dans les journaux de RFI.
Pourquoi RFI dit ça? Réalisation Alexandre Cayuela. À bientôt.